Chapitre 5. Rosemonde avait pour sa personne une providence spéciale qui s'était complue à la faire plus charmante que d'autres, et qui semblait avoir combiné à son profit la maladie de Fred et la maladresse de M. Wrench en vue d'amener entre elle et Lydgate un heureux rapprochement. Si Rosemonde avait consenti à s'en aller à Stone Court ou ailleurs, comme ses parents le désiraient, c'eût été contrevenir à ces arrangements providentiels, d'autant plus que M. Lydgate avait déclaré la précaution inutile. Aussi, tandis que l'on expédiait Miss Morgan et les plus jeunes enfants à la campagne, Rosemonde refusa de quitter son père et sa mère. Sa pauvre maman était dans un état à faire pitié, et M. Vincey, qui adorait sa femme, était plus alarmé pour elle que pour son fils. Il fallait les instances réitérées de son mari pour lui faire prendre un peu de repos. Son joyeux éclat avait disparu, sans souci de sa toilette qui avait toujours été si fraîche et si gaie. Elle ressemblait à un oiseau malade aux yeux languissants et au plumage hérissé. Le délire de Fred, quand il semblait errer dans des régions où elle ne pouvait le suivre, lui brisait le cœur. Après sa première explosion contre M. Wrench, elle se montra plus calme. L'unique cri muet de son cœur s'adressait à Lydgate. Elle le suivait parfois hors de la chambre, et, lui prenant le bras, le suppliait en gémissant de sauver son fils. « Il a toujours été bon pour moi, monsieur Lydgate, » lui dit-elle un jour. « Il n'a jamais eu une parole dure pour sa mère. » Les fibres les plus profondes de sa mémoire de mère étaient remuées en elle, et le jeune homme, dont la voix devenait plus douce pour lui parler, ne faisait qu'un avec le petit être inconnu qu'elle avait aimé avant sa naissance, d'un amour nouveau pour elle. « J'ai bon espoir, Mrs. Vincey, » répondait Lydgate. « Descendez avec moi pour nous entendre sur ce qu'il faut lui donner. » Il l'amena ainsi jusqu'au parloir où se trouvait Rosemonde, la forçant à se reposer un moment, lui faisant prendre par surprise un peu de thé ou de bouillon préparé à l'avance. Il était d'intelligence avec Rosemonde dans ses petits complots. Il la voyait presque toujours avant d'entrer dans la chambre du malade, et, de son côté, elle s'informait auprès de lui de ce qu'elle pourrait faire pour sa mère. Sa présence d'esprit et la finesse avec laquelle elle saisissait les moindres allusions de Lydgate étaient admirables. Il ne faut donc pas s'étonner si la pensée de voir Rosemonde commençait à se mêler chez lui à l'intérêt qu'il prenait au cas de Fred, surtout lorsque la phase critique de la maladie fut passée et qu'il put être certain de la guérison. Tant que le danger subsistait, il avait conseillé de faire appeler le docteur Sprague, qui eût préféré, pour son compte, rester neutre dans l'affaire Wrench. Mais, après deux consultations, la suite du traitement demeura confiée exclusivement à Lydgate, et tous les motifs se réunirent pour lui permettre d'être plus assidu dans la maison. Matin et soir, il était chez M. Vincey, et peu à peu ses visites devinrent plus gaies, à mesure que Fred, revenant à la santé, avait plus besoin d'être gâté, en même temps qu'il se rendait mieux compte des soins qu'on lui prodiguait. Aussi, Mrs. Vincey avait-elle le sentiment qu'après tout, cette cruelle maladie avait préparé une nouvelle fête à sa tendresse. Père et mère trouvèrent encore une raison de plus de se réjouir dans les messages que le vieux Featherstone envoya par l'intermédiaire de Lydgate, disant que Fred devait se hâter de guérir, car lui, Pierre Featherstone, ne pouvait se passer de son neveu, dont les visites lui avaient beaucoup manqué. Le vieillard lui-même était maintenant presque toujours alité. Mrs. Vincey fit part de ses messages à son fils lorsqu'il fut en état de les entendre. Fred, aspirant à savoir quelque chose concernant Mary, tourna vers sa mère son visage pâle et défait, dépouillé de son épaisse chevelure blonde et dont les yeux semblaient s'être agrandis. Il se demandait ce que la jeune fille avait dû éprouver pendant sa maladie. Pas une parole ne passa entre ses lèvres, mais le don d'écouter avec les yeux appartient à la rare clairvoyance de l'amour, et sa mère, dans la plénitude de son cœur, non seulement devina le désir de Fred, mais se sentit prête à tous les sacrifices pour le satisfaire. « Que je puisse seulement voir mon fils pleinement revenu à la santé, » dit-elle dans sa folle tendresse, « et qui sait, peut être propriétaire de Stone Court, il pourra alors épouser qui lui plaira. « Non pas, si l'on ne veut pas de moi, mère, » dit Fred. Sa maladie l'avait rendu sensible comme un enfant, et des larmes lui vinrent aux yeux. « Oh, prenez un peu de gelée, mon chéri, » dit sa mère secrètement incrédule à l'endroit d'un tel refus. Elle ne quittait jamais Fred à moins que son mari ne fût là pour la remplacer, et Rosemonde se trouvait ainsi, et pour la première fois, très souvent seule. Lydgate ne restait jamais longtemps avec elle, mais les conversations brèves et toutes simples qu'ils avaient ensemble créaient doucement entre eux cette intimité particulière qui vient de la timidité même. Il fallait bien se regarder en se parlant, et de quelque façon que ce fût, il ne pouvait le faire tout simplement comme d'autres. Lydgate commença à trouver gênante cette obligation de se regarder, et un beau jour, il fixa ses yeux à terre au hasard, devant lui, comme une poupée mal faite. Fâcheuse inspiration. Le lendemain, Rosemonde aussi regarda à terre, et il en résulta que, quand de nouveau leurs yeux se rencontrèrent, ils eurent tous deux plus conscience encore de leur gêne mutuelle. Nul remède à cette folie dans la science. Que faire, puisque Lydgate ne voulait pas aller plus loin? Ce fut donc un grand soulagement lorsque la maison cessa d'être mise en quarantaine par les voisins, et que les chances de rencontrer Rosemonde seule devinrent infiniment plus rares. Mais si cette intimité, qui consiste dans un mutuel embarras où chacun a le sentiment de ce que l'autre éprouve, a une fois existé, l'effet ne s'en dissipe pas aisément. C'est un remède illusoire que de parler du temps ou d'autres banalités, et les rapports ne peuvent guère redevenir faciles, à moins de reconnaître franchement une fascination réciproque, sans avoir besoin d'éprouver d'ailleurs pour cela de sentiments vraiment sérieux et profonds. Ce fut de cette manière que les entretiens de Rosemonde et de Lydgate retrouvèrent leur animation dans l'aimable et parfaite aisance de leurs nouveaux rapports. Les visiteurs allaient et venaient comme de coutume, on fit de nouveau de la musique au salon, l'hospitalière maison du maire se rouvrit toute grande. Lydgate, dès qu'il le pouvait, venait s'asseoir à côté de Rosemonde, la priait de faire de la musique et s'appelait son captif, tout en ne voulant pas l'être. Il sentait combien il serait absurde de songer dès à présent à se monter une maison, comme il convient à un homme marié. Et c'était une garantie suffisante contre tout danger. Cette manière de jouer un peu à l'amoureux n'était pas sans agrément, et ne nuisait pas à de plus graves occupations. Le flirt, après tout, n'était pas un travail absorbant. Rosemonde, pour sa part, n'avait jamais compté de plus beaux jours dans sa vie. Elle se savait admirée par un homme digne d'être séduit, et pas plus dans son cœur que dans celui d'un autre, elle ne distinguait le flirt de l'amour. Elle semblait voguer à pleine voile avec un vent favorable vers le but où elle tendait, et ses pensées étaient fort occupées d'une belle maison dans Lowick-Gate qu'elle espérait voir bientôt devenir vacante. Elle était bien décidée, une fois mariée, à se débarrasser adroitement de tous les visiteurs de son père qui ne lui étaient pas agréables. Et elle se représentait déjà le salon de sa maison préférée, orné de toutes sortes de meubles de différents styles. Certainement, ses pensées étaient aussi fort occupées de Lydgate lui-même. Il lui paraissait presque une perfection. S'il eût mieux connu la musique, de façon que l'enchantement où il était de l'entendre n'eût pas été trop semblable à celui d'un éléphant sensible, et s'il avait seulement été plus habile à distinguer le raffinement de son goût en matière de toilette, elle aurait eu de la peine à signaler en lui un défaut quelconque. Qu'il était différent du jeune Plumdale ou du monsieur Caius Larcher. Ces jeunes gens n'avaient aucune notion du français, et ne savaient parler d'une manière intéressante d'aucun sujet, si ce n'est peut-être du commerce des teintures et des importations, dont naturellement ils rougissaient de parler. Ils appartenaient à la gentry de Middlemarch, élevés avec leurs cravaches à poignées d'argent et leurs cravates de satin. Mais ils étaient gauches, empruntés et niaisement goguenards. Fred lui-même était au-dessus d'eux, ayant au moins le ton et les manières d'un jeune homme de l'université. Lydgate, au contraire, pouvait toujours être écouté. et se comportait avec l'aisance polie de la supériorité qui a conscience d'elle-même, et semblait toujours vêtue des habits de circonstance par une certaine affinité naturelle, sans avoir jamais à s'en préoccuper. Rosemonde était fière de la voir paraître au salon, et lorsqu'il s'approchait d'elle avec un sourire particulier, elle avait le sentiment délicieux d'être l'objet d'un hommage enviable. Si Lydgate avait su tout l'orgueil qu'il excitait dans cette délicate poitrine, il en eût été sûrement tout autant satisfait qu'eût pu l'être à sa place l'homme le plus ignorant de la pathologie. Il regardait comme l'une des plus jolies attitudes de l'esprit féminin d'adorer la prééminence de l'homme, sans savoir trop précisément en quoi elle consistait. Mais Rosemonde n'était pas une de ces jeunes filles sans empire sur elles-mêmes, qui se trahissent sans le vouloir, et dont la conduite dépend des impulsions au lieu d'être gouvernée par les convenances et par une grâce prudente. Gardez-vous de croire que sa prévoyance anticipée et ses graves méditations sur le mobilier et la société de sa future maison fussent jamais perceptibles dans sa conversation même avec sa mère. Elle eut au contraire exprimé la plus gracieuse surprise et la plus extrême désapprobation si elle avait entendu dire qu'une autre demoiselle se laissât aller à des réflexions aussi prématurées qu'immodestes. Elle réalisait toujours cette même combinaison de sentiments corrects et cette juste perfection dans la musique, la peinture, la danse, dans l'art de tourner d'élégants petits billets et d'inscrire des vers sur un album, avec cette grâce accomplie des blondes qui faisait d'elle une femme irrésistible pour l'homme prédestiné de cette époque. Ne soyez pas injuste envers elle, je vous en prie. Elle ne formait pas de méchant complot, elle était bien étrangère à tout calcul sordide. En réalité, elle ne songeait jamais à l'argent que comme à une nécessité qui regardait les autres. Elle n'avait pas l'habitude de forger de mensonges, et si ses petits récits ne suivaient pas toujours le fil droit de la vérité, du moins n'était-il pas inventé et préparé d'avance. Il faisait partie de ces perfections élégantes destinées à plaire. La nature avait appelé bien des artistes à son aide pour achever de parfaire l'élève favorite de Mrs. Lemon, qu'un consentement unanime déclarait un rare composé de beauté, d'intelligence et de grâce. Lydgate trouvait de plus en plus charmant de causer avec elle. Il n'y avait plus entre eux de contraintes, mais un délicieux échange d'influences sympathiques dans leurs regards. Et ce qu'ils échangeaient sans avoir besoin d'aparté avait pour eux cette abondance de signification qui eût paru insipide à une tierce personne. Le fait est qu'ils flirtaient, et Lydgate était tranquille dans la conviction qu'il ne s'agissait pas d'autre chose. Ses rapports avec les hommes de Middlemarch, M. Fairbrother excepté, étaient de vraies corvées, et Lydgate ne se souciait ni de cartes ni de politique commerciale. Quel délassement avait-il à sa portée? Il était souvent invité chez les Bulstrode, mais les jeunes filles de la maison étaient à peine sorties de la salle d'études, et l'aisance naïve avec laquelle Mrs. Bulstrode conciliait le monde et la piété, le néant de la vie et l'amour du cristal taillé, la connaissance du plus mince chiffon et du plus beau damas n'était pas un allègement suffisant au poids de la gravité imperturbable du mari. Le contraste rendait la maison des Vinci, avec tous ses défauts, d'autant plus agréable. Et Rosemonde s'y épanouissait, douce à regarder comme une rose de Bengale à demi ouverte, et ornée de perfections faites pour plaire au goût raffiné d'un délicat. Lydgate se fit pourtant quelques ennemis en dehors de la médecine par ses succès auprès de Miss Vinci. Il arriva un soir un peu tard au salon où se trouvaient quelques personnes. La table de jeu avait réuni, à part, les plus âgés de la société, et M. Ned Plimdale, un des bons partis de Middlemarch, sans être un de ses esprits influents, était en tête-à-tête avec Rosemonde. Il lui avait apporté le dernier keepsake dans l'édition somptueuse de soie moirée qui représentait alors le dernier mot du progrès, et il se considérait comme très heureux de pouvoir être le premier à le parcourir avec elle, s'arrêtant aux images des belles dames et des messieurs aux joues et aux sourires luisants de gravure, recommandant comme fameux des versets comiques comme pleine d'intérêt des histoires sentimentales. Rosemonde se montrait gracieuse, et M. Ned, très satisfait avec son menton fuyant de ses avantages extérieurs, était tout heureux de pouvoir mettre au service de sa galanterie tout ce que l'art et la littérature offraient de plus digne de plaire à une belle jeune fille. Je trouve à l'honorable Mrs. S. quelque ressemblance avec vous, dit M. Ned, regardant d'un air assez indifférent d'ailleurs le portrait dans le livre ouvert devant lui. Elle a un dos énorme. Elle semble avoir posé pour le dos, dit Rosemonde, sans aucune intention de critique, tout en remarquant combien les mains du jeune Plimdale étaient rouges et se demandant pourquoi Lydgate ne venait pas. Elle continuait, pendant cet entretien, à faire de la frivolité. « Je n'ai pas dit qu'elle fût aussi belle que vous, » reprit M. Ned, se hasardant à détacher ses yeux du portrait pour les reporter sur sa rivale. « Je vous soupçonne d'être un habile flatteur, » dit Rosemonde, intérieurement convaincue qu'elle aurait à refuser ce jeune gentleman. À cet instant, Lydgate parut. Le livre fut fermé avant qu'il eût rejoint Rosemonde, et tandis qu'avec aisance et d'un air de confiance assurée, il s'asseyait de l'autre côté de la jeune fille, la mâchoire du jeune Plimdale s'abaissa comme un baromètre qui dégringole du côté peu réjouissant de pluie et de vent. Rosemonde était heureuse autant de la présence de Lydgate que de l'effet qu'elle produisit. Elle aimait à exciter la jalousie. « Quel retardataire vous faites ?» lui dit-elle, en même temps qu'ils échangeaient une poignée de main. « Maman ne comptait plus sur vous ce soir. Comment trouvez-vous Fred ? Il est en bon chemin et en train de se remettre. Mais les progrès sont lents. Je voudrais qu'il changeât d'air un peu, qu'il allât à Stone Court, par exemple. Mais votre maman semble y avoir quelque objection. « Pauvre garçon !» dit Rosemonde avec son gracieux sourire. « Vous trouverez Fred bien changé, » ajouta-t-elle en s'adressant à son autre adorateur. « Monsieur Lydgate a été notre ange gardien pendant cette maladie. » Monsieur Ned répondit par un sourire contraint, tandis que Lydgate, prenant le keepsake et l'ouvrant, témoignait par un petit rire dédaigneux et par le mouvement de son menton sa stupéfaction de la bêtise humaine. « Pourquoi avez-vous l'irrévérence de rire ?» dit Rosemonde avec une gracieuse indifférence. « Je me demande ce qui pourrait bien être ici le plus bête, des gravures ou du texte, » dit Lydgate tout en feuilletant rapidement les pages de ses belles et grandes mains. « Regardez ce marié qui sort de l'église. Avez-vous jamais vu plus belle image de coiffeur ? Quel petit boutiquier eut jamais l'air plus prétentieux ? Pourtant, je jurerais que le texte en fait un des premiers gentilshommes du pays. « Vous êtes bien sévère. J'ai vraiment peur de vous, » dit Rosemonde, qui n'avait garde de trop se laisser aller à son amusement. Le pauvre Plimdale s'était arrêté avec admiration sur cette gravure, et il n'avait plus l'esprit en repos. « Il y a, dans tous les cas, beaucoup de gens célèbres qui écrivent dans le keepsake, » dit-il d'un ton vexé et mal assuré tout ensemble. « C'est la première fois que je l'entends traiter de bête. Je crois que je vais me mettre contre vous, et vous traiter de barbare. » dit Rosemonde, en regardant Lydgate avec un sourire. « Je vous soupçonne de ne rien savoir de Lady Blessington et de L.E.L. » Ce n'est pas que Rosemonde méprisât absolument ses écrivains, mais elle ne se compromettait jamais par une admiration trop prompte, et elle saisissait la moindre allusion à ce qui n'était pas, au dire de Lydgate, du meilleur goût. « Mais Sir Walter Scott, M. Lydgate le connaît, je suppose. » reprit le jeune Plimdale, un peu racaillardi par cet avantage. « Oh, je ne lis plus maintenant d'œuvres littéraires, » dit Lydgate en repoussant le livre. « J'ai tant lu lorsque j'étais enfant et jeune homme que cela peut suffire à toute ma vie, je suppose. Je savais autrefois les poèmes de Scott par cœur. Je voudrais savoir quand vous vous êtes arrêté, » dit Rosemonde, « parce qu'alors je serais sûr de connaître quelque chose que vous ne connaissez pas. » « Monsieur Lydgate vous dira que ce n'est pas la peine d'en connaître davantage, » dit le jeune Ned, mettant de l'intention dans son sarcasme. « Au contraire, » dit Lydgate sans se montrer le moins du monde vexé, mais en souriant à Rosemonde avec une confiance exaspérante. « Cela en vaudrait grandement la peine, parce que Miss Vincey pourrait m'en instruire. » Le jeune Plimdale ne tarda pas à aller rejoindre les joueurs de whist, faisant la réflexion que Lydgate était un des êtres les plus infatués et les plus désagréables que sa mauvaise fortune lui eût jamais fait rencontrer. « Que vous êtes bouillant !» dit Rosemonde, intérieurement ravi. « N'avez-vous pas vu que vous l'avez offensé ? Quoi, ce livre est à Plymdale ? J'en suis fâché. Je n'y ai pas pensé du tout. Je vais commencer à croire ce que vous avez dit de vous-même, la première fois que vous êtes venu ici, que vous étiez un ours et que vous aviez besoin d'être apprivoisé par les oiseaux. Eh bien, il y a un oiseau qui peut m'enseigner tout ce qu'il voudra. N'est-il pas vrai que je l'écoute avec obéissance ? Il semblait à Rosemonde qu'elle et Lydgate étaient tout comme fiancés. Depuis longtemps, l'idée qu'ils seraient fiancés un jour ou l'autre s'était enracinée dans sa tête, et les idées, nous le savons, tendent vite à prendre une réelle consistance quand on a sous la main les matériaux nécessaires. Lydgate avait, il est vrai, l'idée contraire, celle de ne pas être fiancé. Mais ce n'était qu'une simple négative, une ombre produite par d'autres résolutions qui pourraient elles-mêmes faiblir. Les circonstances devaient presque infailliblement donner raison à Rosemonde, dont l'activité pratique portait sur toute chose l'attention de ses yeux bleus, tandis que Lydgate restait dans l'aveuglement et l'insensibilité d'une méduse que l'on fait fondre sans qu'elle s'en aperçoive. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il examina à travers ses fioles, avec un intérêt exclusif, la marche d'un nouveau procédé de macération, et il rédigea ses notes journalières avec autant de précision que de coutume. Les rêveries dont il lui était difficile de détacher sa pensée étaient des constructions idéales formées d'autre chose que des grâces de Rosemonde. C'était le tissu primitif du corps humain qui constituait avant tout pour lui le doux inconnu. Il commençait aussi à prendre goût à la lutte sourde encore, mais grandissante, qui existait entre lui et les autres médecins, et qui allait sans doute éclater au grand jour, maintenant que sa méthode était sur le point d'être appliquée au nouvel hôpital. Il s'apercevait enfin, à quelques signes encourageants, que si la clientèle de certains malades de Peacock lui faisait défaut, il avait en revanche très bien réussi dans d'autres quartiers. Quelques jours plus tard, comme il avait par hasard rencontré Rosemonde sur la route de Lowick et était descendu de cheval pour marcher à côté d'elle, un domestique à cheval l'avait arrêté pour lui remettre un message qu'il appelait dans une grande maison où Peacock n'était jamais allé. C'était le second exemple de ce genre. Le domestique appartenait à Sir James Chatham et on l'appelait au manoir de Lowick. Chapitre 6. Monsieur et Madame Casaubon, revenant de leur voyage de noces, arrivèrent à Lowick Manor dans le milieu de janvier. Une neige fine tombait lorsqu'ils descendirent à leur porte, et le lendemain matin, quand Dorothée passa de son cabinet de toilette dans le boudoir bleu-vert que nous connaissons, elle vit la longue allée des tilleuls dressant ses troncs au-dessus d'une terre blanche et étendant ses rameaux blancs vers le ciel gris et immobile. La plaine s'effaçait au loin dans une blancheur uniforme, sous une masse flottante de nuages bas. L'ameublement de la chambre s'était comme effacé aussi, depuis qu'elle ne l'avait vue. Le cerf de la tapisserie avait un air de fantôme plus marqué encore sur son fond verdâtre d'un effet spectral. Les volumes qui garnissaient l'étagère ressemblaient plutôt à des imitations de livres, fixés là d'une façon à jamais immuable. Le feu brillant de bois de chêne sec allumé sur les chenets semblait ici un renouvellement choquant de vie et d'éclat, comme l'apparition elle-même de Dorothée, lorsqu'elle entra en tenant dans ses mains les écrins de cuir rouge qui renfermaient les camées de Célia. Elle rayonnait de fraîcheur dans sa toilette de matin, comme la jeunesse peut seule rayonner. Il y avait un éclat de pierre précieuse sur son abondante chevelure tordue et dans ses yeux couleur noisette. Il y avait de la vie ardente et vermeille sur ses lèvres. La blanche et virginale fourrure qui garnissait sa longue pelisse bleu clair mettait en relief la blancheur animée et vivante de son cou, autour duquel elle semblait tendrement s'enrouler comme d'elle-même. Et l'innocence à la fois sensible et naïve que respirait cette gorge blanche gardait tout son charme attrayant à côté de la pureté cristalline de la neige du dehors. En posant les écrins sur la table du bow window, elle y laissa tomber ses mains, absorbée dans la contemplation de l'enclos blanc et silencieux qui constituait son univers visible. Monsieur Casaubon, qui s'était levé de bonne heure en se plaignant de palpitations, donnait audience dans la bibliothèque à son vicaire, Monsieur Tucker. Célia n'allait pas tarder à venir, et durant les semaines suivantes, il y aurait des visites de noces à faire et à recevoir. En un mot, toute la suite de cette vie de transition qui semble faite pour répondre à l'excitation du bonheur conjugal naissant et qui vous donne le sentiment d'une activité sans résultat, semblable à un rêve dont le rêveur commence à douter. Les devoirs de sa vie de femme, qui lui étaient apparus si importants avant le mariage, semblaient s'effacer avec les tentures et le paysage noyé de vapeurs. Les hauteurs distinctes, où elle s'attendait à planer dans une communion entière avec un autre, était devenue difficile à apercevoir même en imagination. La délicieuse confiance d'une âme se reposant sur une autre âme supérieure et parfaite s'était écroulée jusqu'à devenir un effort pénible, et alarmée par un pressentiment confus. Quand donc commenceraient ces jours de dévouement actif de la femme qui devait fortifier la vie de son mari et exalter la sienne propre. Jamais, peut-être, de la façon dont elle les avait préconçues, mais de quelque façon pourtant. En attendant, c'était la neige, et une voûte basse de vapeur grise. C'était cette oppression écrasante d'une vie de femme riche, où tout se faisait pour elle, et où personne ne demandait son aide, où elle devait péniblement garder comme une pure vision intérieure le sentiment d'une existence utile et multipliée, au lieu de recevoir du dehors les appels qui eussent donné un emploi à ses fortes aspirations. « Que ferai-je ? Tout ce que vous voudrez, ma chère. » Telle avait été sa courte histoire, depuis qu'elle avait cessé d'apprendre ses leçons le matin et d'étudier d'ineptes mélodies sur le piano aboré. Le mariage, qui devait lui indiquer une direction sérieuse dans des occupations utiles et obligées, ne l'avait pas encore délivrée de l'oppressive liberté qui pèse sur la femme du monde. Il n'avait même pas rempli ses loisirs de la joie absorbante d'une tendresse sans contrainte. Sa florissante jeunesse était là dans un emprisonnement moral qui ne faisait qu'un avec le paysage glacial, incolore, borné, avec l'ameublement pâli, les livres toujours fermés et le cerf spectral dans son monde éteint et fantastique. Pendant les premières minutes que Dorothée regarda au dehors, elle ne sentit que l'oppression morne des choses extérieures. Puis un douloureux souvenir lui revint, et, s'éloignant de la fenêtre, elle se mit à marcher par la chambre. Les pensées et les espérances qui peuplaient son âme la première fois qu'elle y était entrée, 3 mois auparavant, n'existaient plus maintenant qu'à l'état de souvenir. Elle les jugeait comme nous jugeons des choses passées et fugitives. Tous les souvenirs qu'elle en avait gardés étaient désenchantés, morts, comme un transparent qui n'est pas éclairé. Son regard errant alla enfin tomber sur le groupe des miniatures, et là, du moins, elle vit quelque chose qui avait acquis une nouvelle vie et une signification nouvelle. C'était le portrait de la tante Julia, cette tante de M. Casaubon, qui avait fait un mariage malheureux, la grand-mère de Will Ladislav. Dorothée pouvait maintenant se la représenter vivante, cette figure de femme si délicate, qui avait pourtant le regard ferme et une certaine étrangeté difficile à interpréter. Était-ce ses amis seulement qui avaient trouvé son mariage malheureux, ou avait-elle fini par comprendre elle-même qu'elle s'était trompée, et goûter l'amertume des larmes dans le silence miséricordieux de la nuit? Quel champ d'expérience Dorothée semblait avoir parcouru depuis qu'elle avait regardé ce portrait pour la première fois. Elle se sentit un nouveau lien de sympathie avec lui, comme s'il avait une oreille pour l'entendre, et pouvait la voir comme elle le regardait. Il y avait là une femme qui avait connu des souffrances dans le mariage. Mais non, les couleurs en devinrent soudain plus vives, les lèvres et le menton semblèrent s'agrandir, les cheveux et les yeux répandre de la lumière. Le visage avait pris quelque chose des traits d'un homme et rayonnait sur elle avec ce regard concentré qui dit à celle sur qui il tombe qu'elle est trop intéressante pour que le plus léger mouvement de sa paupière passe inaperçu. Cette ardente vision vint comme une douce lumière éclairer Dorothée. Elle se sentit sourire et, se détournant du portrait, s'assit et leva les yeux, comme si elle parlait à quelqu'un en face d'elle. Mais le sourire disparut pendant qu'elle continuait à réfléchir. Tout à coup, elle dit à haute voix, « Oh, c'était cruel de parler ainsi. Que c'est triste, que c'est affreux. » Elle se leva et, s'enfuyant de la chambre, traversa d'un pas rapide les corridors avec un besoin irrésistible d'aller retrouver son mari et de lui demander si elle pourrait lui être utile à quelque chose. Il lui semblait que toute sa tristesse du matin allait s'évanouir, si elle pouvait voir son mari heureux de sa présence. Mais lorsqu'elle fut en haut du sombre escalier de chêne, elle vit Célia qui montait, et plus bas, M. Brooke, échangeant des compliments et des paroles de bienvenue avec M. Casaubon. « Dodo !» dit Célia de son petit ton de staccato tranquille. Puis elle embrassa sa sœur, qui l'entoura de ses bras sans rien dire. Je crois bien qu'elle pleurait un peu toutes deux furtivement, tandis que Dorothée descendait en courant l'escalier pour aller embrasser son oncle. « Je n'ai pas besoin de demander comment vous allez, ma chère, » dit M. Brooke, après l'avoir baisé sur le front. « Rome vous a réussi, à ce que je vois. Bonheur, fresque, antiquité, etc. Eh bien, c'est charmant de vous voir de retour. Et vous comprenez toutes les choses de l'art maintenant, eh ? Mais Casaubon est un peu pâle, vous savez. C'est aller un peu trop loin aussi que de travailler si durement pendant ses vacances. Je l'ai fait moi-même à une époque de ma vie. » M. Brooke tenait encore la main de Dorothée, mais il s'adressait à M. Casaubon. C'était à propos de topographie, de ruines, de temples. Je croyais avoir découvert un fil nouveau. Mais j'ai vu qu'après tout, cela ne mènerait à rien. Allez aussi loin que vous voudrez dans ce genre de choses, et il se peut que cela n'aboutisse à rien, vous savez. » Dorothée, cependant, regardait fixement son mari, anxieuse à l'idée que ceux qui le revoyaient après une absence découvraient peut-être en lui des signes dont elle ne s'était pas aperçue elle-même. « Ce n'est rien qui doive vous alarmer, ma chère, » dit M. Brooke, remarquant son expression. « Un peu de bœuf et de mouton opéreront bientôt en lui un changement favorable. » C'était très bien d'être pâle pour poser en saint Thomas d'Aquin, vous savez. Nous avons reçu juste à temps votre lettre. Mais quant à d'Aquin, aujourd'hui, il était un peu trop subtil, n'est-ce pas? Qui est-ce qui lit les livres de d'Aquin? Ce n'est certainement pas un auteur qui convienne aux esprits superficiels, dit M. Casaubon, supportant ces questions si inopportunes avec une patience pleine de dignité. « Vous prendriez volontiers un peu de café, mon oncle ?» demanda Dorothée, venant à son aide. « Oui, allez avec Célia. Elle a de grandes nouvelles à vous apprendre. Je lui laisse le soin de tout vous dire. » Le boudoir bleu-vert prit un aspect beaucoup plus gai quand Célia, enveloppée d'une pelisse pareille à celle de sa sœur, fut assise, examinant les camées avec une satisfaction tranquille. « Est-ce joli d'aller à Rome en voyage de noces ?» demanda Célia, son visage se colorant de cette soudaine et délicate rougeur à laquelle Dorothée était habituée de sa part dans les plus petites occasions. « Cela n'irait pas à tout le monde, pas à toi, chérie, par exemple, » dit Dorothée fort calme. Personne ne saurait jamais ce qu'elle pensait d'un voyage de noces à Rome. Mrs. Cadwallader dit que c'est une bêtise des mariés de faire de ces longs voyages de noces. Elle dit qu'ils se fatiguent à la mort l'un de l'autre et ne peuvent se disputer à leur aise comme ils le feraient chez eux. Lady Chatham m'a dit qu'elle était allée à Bath après son mariage. Il y avait certainement dans la couleur qui paraissait et disparaissait sur les joues de Célia quelque chose de plus que sa rougeur habituelle. « Célia, que s'est-il donc passé ?» dit Dorothée avec un accent où se révélait sa tendresse de sœur. « As-tu réellement de grandes nouvelles à m'apprendre ?» C'est parce que tu étais parti, Dodo. Alors Sir James n'avait plus que moi à qui parler, dit Célia avec une certaine malice dans les yeux. Je comprends. C'est ce que j'ai toujours pensé et espéré, dit Dorothée, prenant le visage de sa sœur entre ses mains et la regardant à moitié anxieuse. Le mariage de Célia lui semblait une chose plus sérieuse qu'autrefois. « Il n'y a que 3 jours de cela, » reprit Célia, « et Lady Chatham est très bonne. »« Et tu es très heureuse ?»« Oui. Nous ne nous marierons pas tout de suite, parce qu'il faut tout préparer. »« Et puis, je n'ai pas envie de me marier si vite. Je trouve charmant d'être fiancée. Nous aurons toute notre vie ensuite pour être mariés. »« Je ne crois pas que tu puisses mieux trouver, Kitty. » Sir James est un homme bon et honorable. Il a continué à s'occuper des chaumières, Dodo. Il te dira tout ce qu'il a fait depuis. Seras-tu contente de le voir?
Sans doute, je le serai. Peux-tu me demander cela?
Je craignais seulement que tu ne fusses devenue si savante, dit Célia. Elle considérait la science de M. Casaubon comme une sorte de vapeur nuisible qui pourrait, avec le temps, absorber un corps voisin.